Remember when you talk dirty.
Alors, deux choses absolument incroyables pour débuter cette émission, c'est que, un, je me traîne pas cette espèce de micro turgescent qu'il m'a obligé à mettre la dernière fois, où quand tu regardes l'émission, t'as l'impression que c'est un micro qui parle, et pas moi. Et deuxième chose super importante, c'est que, pour une fois, ces salopards de Capture Mag ne m'ont pas laissé des miettes cinématographiques à traiter, et que je me suis dit, bah, alors voilà, vous gardez tous les bons films? Ben alors moi, je vais aller taper les grosses séries télé que tout le monde regarde. Parce qu'il y a plus de gens qui regardent Severance, mec, qu'il y a de gens qui regardent le dernier cinéaste qu'on kiffe bien. Hein. Alors ça fait mal au cul, mais ben c'est comme ça. Non, je déconne, d'autant que Severance mérite qu'on s'y intéresse pour le coup. Voilà, la question délicate du spoil. Qu'on ne se pose jamais en général parce qu'on spoil tout le temps. Là, j'ai envie de dire, même dans le texte que j'écris, je spoil pas tant que ça la saison 1. Maintenant, franchement, faut pas regarder cette émission si t'as rien vu, quoi. Voilà. Alors, on s'est trouvé la bonne opportunité d'en parler, puisque la deuxième saison, à l'heure où je tourne cette émission, elle vient juste de se terminer avec encore un cliffhanger. Un cliffhanger qui te finit sur un plan tout droit sorti de la nouvelle vague. T'as l'impression de tout d'un coup d'avoir Truffaut qui conclut la saison, et t'es là, tu fais « Ok, d'accord, bon, ok, j'espère que ça a un sens, je ne sais pas. »
On aurait même dû mettre une chanson de Marie Laforêt.
On a carrément une scène entière avec la valse Hamilton de Jacques Brel, quoi.
C'est arty.
C'est smart. L'intelligence du truc glisse magnifiquement vers la roublardise un petit peu cynique des mecs déconnectés du réel qui font genre hey, « Eh, nous, on a un combat à mener sociétal. Mais regarde, on le fait avec des grosses caméras et plein de thunes au service d'une grosse entreprise. » Putain, vous êtes grave anti-système, les mecs. Bon, ça, c'est fait, c'est balancé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas plein de trucs super dans cette saison. Parce que, hein, nous allons traiter le Rise and Fall of Severance avec super première saison. Ah là, mon Dieu, catastrophe. Bring it on.
Don't fuck with me.
Ok, tout est prêt.
Allez, c'est bon.
Vos ordinateurs Apple sont bien prêts. Vous avez la feuille Excel comme il faut pour qu'on suive bien le conducteur sans déborder, hein? Sinon, gaffe à votre N+1. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui, c'est mon double maléfique qui parle, puisque j'ai foncé tête baissée dans le mur de la dissonance cognitive avec une série télé schizophrène qui s'est beurrée de hype comme on se tartinerait le sphincter après une première défloraison qui ne laisserait pas de marbre. Une série dissonante, c'est le cas de le dire, tout aussi paradoxale que les deux saisons qui la composent, mais qui à elle seule a fait bondir le nombre d'abonnements à la plateforme d'Apple avant de devenir l'une des les plus regardées du moment. Je parle bien sûr de Severance, série créée par un Dan Erickson peu connu jusque-là, mais surtout produite et réalisée par El Famoso Ben Stiller, ce qui me fait doucement marrer quand j'entends la chose qualifiée d'anticapitaliste, voire d'antisystème. La doxa dominante produit toujours son miroir déformant, ce qui est peu cher payé pour s'enrober d'une indignation vertueuse sans jamais vraiment tacler le nerf de la guerre. Mais passons. En imaginant une sorte de réalité parallèle où des salariés d'une entreprise acceptent une opération dissociant leurs souvenirs personnels et professionnels jusqu'à produire deux personnalités distinctes pour un même corps, le concept suffit à embrasser le zeitgeist de nos sociétés néolibérales aussi conflictuelles que fractionnées. Et si son postulat allégorique ouvre un champ de réflexion philosophique très vaste sur le travail, l'identité, le libre-arbitre, la dualité et les rapports de domination, la seule identification progressive à des employés esclavagisés et robotiques qui prennent conscience de leur inféodation sans savoir comment s'en émanciper suffit à parler à absolument tout le monde. C'est la grande force d'une série par ailleurs extrêmement maîtrisée visuellement, mais dont la pose progressivement autosatisfaite, pour ne pas dire bourge, est... Ah merde, non, la phrase est beaucoup plus longue qu'elle en avait l'air. C'est la grande force de Yannick Dan d'écrire des phrases à rallonge que personne ne comprend. C'est la grande force d'une série par ailleurs extrêmement maîtrisée visuellement, mais dont la pose progressivement autosatisfaite, pour ne pas dire bourge, et une intrigue au tiroir sans fond finissent par parasiter ses velléités thématiques. Alors faut-il believe the hype, comme on dit, ce qui est rarement le cas. Franchement, rien que pour l'allu de voir dans ma vie de cinéphile une magnifique idylle, mais néanmoins improbable, entre John Turturro et un Christopher Walken à l'âge canonique, je suis obligé de répondre par un grand oui.
My name is Mark S.
I'm Helly R.
My name is Irving B.
My name is Dylan G.
And I have, of my own free accord,
elected to undergo the procedure
known as severance.
Awesome.
I give consent for the Lumen Corporation,
and it's a good corporation,
to sever my memories between my work life
and my personal life.
I acknowledge that once the procedure is complete,
I will be unable to access my personal memories
whilst on Lumen's severed floor. Nor will I retain work memories
when I return home at the end of the day.
I am aware that this alteration is comprehensive and irreversible.
I make these statements freely.
J'en étais où? Ah oui, le texte. Alors, un grand oui, d'accord, mais uniquement pour la première saison, pour son concept à haut potentiel philosophique et pour ses personnages parfaitement écrits, qui plus est, incarnés par une brochette d'acteurs absolument monstrueux, Adam Scott en tête, dont la densité de jeu réussit à faire passer crème absolument n'importe quoi, même les dialogues les plus pédants et ampoulés possibles, et Dieu sait qu'il y en a. C'est déjà beaucoup, même si ça ne fait pas un oui franc, mais plutôt un oui... Sachant que l'on prend plaisir au reste, tout en ayant conscience qu'on se fait roublardiser le cortex. Et pourquoi se fait-on roublardiser le cortex ? Narrativement d'abord, par une intrigue en toile de fond à la « vas-y que je t'embrouille », visant à maintenir notre attention à la manière d'un Lost 2.0 sur la base de mystères enveloppés dans des devinettes, elles-mêmes roulées dans des énigmes, mais cachées dans le double fond d'une poupée russe. Des layers cryptiques sur la nature de l'entreprise et de ses maîtres qui s'empilent en mêlant l'absurde au surréalisme, dont on comprend vite qu'à défaut de réponses ne serait-ce que sporadiques, ils finiront par nous perdre, ce qui arrive immanquablement dans la saison 2. Thématiquement, ensuite, par un concept qui certes décline de manière cohérente, c'est possible, à l'aune des relations entre personnages et de l'impact de la dissociation sur leur vie, mais qui ne dépasse jamais vraiment son allégorie initiale. Les questionnements profonds sur les racines de ce système, sur ce qu'il implique par rapport à la condition humaine, comme à la dialectique très hegélienne du maître et de l'esclave, ne vont jamais au-delà de son postulat. Le grand réquisitoire contre l'ingénierie sociale s'évanouit vite au profit d'une trame classique dont le progressisme hypocrite appelle à ce que l'individu soumis qu'il a lui-même créé se découvre en libre arbitre pour quelque utopique révolution ne visant pas à renverser le système, mais à choisir librement d'y consentir. Ce qui, soit dit en passant, n'est plus une idée à Hollywood, mais une convention dont il conviendrait un jour d'étudier le sempiternel recyclage comme l'intentionnalité castratrice. Je dis ça, je dis rien, mais au bout de la saison 2, qu'on le veuille ou non, que l'on croit ou pas que l'amour se confonde à la liberté, les héros esclaves ne se rebellent que pour le rester. T'as tout cet enjeu d'une série où ils sont pas cons les mecs, ils savent très très bien qu'une série, elle a besoin d'un concept fort qui va attirer les gens, elle a besoin d'éléments mystérieux, d'une intrigue, un sous-texte, même si elle est prétexte pour te faire entrer, jusqu'au moment où tu vas t'attacher suffisamment aux personnages s'ils sont bien écrits pour n'avoir envie de suivre que les personnages. Donc après, le reste, tu peux y aller dans le grand n'importe quoi, c'est les gens, ils kiffent Eddie, et ils kiffent Adam Scott, et ils veulent ça, et qu'on les fait partir du Sri Lanka, je sais pas quoi, avec 50 milliards de portes, dans des trucs, ils adhéreront quand même, parce qu'ils kiffent le personnage. Et alors après, tu c'est pas compliqué de faire 50 retournements de situation sur les trucs, même si c'est bidon. Mais bon, c'est un fonctionnement. Et c'est toujours souvent le cas d'une série, elle se tient super bien dans son concept sur une saison 1. Là, dès la saison 2, quand même, ils sont dans le délayage. Hein. Donc, au bout d'un moment, t'es là, t'as envie de dire, flûte, quoi. C'est toute l'hypocrisie de ce système. C'est de te faire croire à une émancipation, à une liberté et à une révolution. Le fait que ces deux mecs se disent « Mais en fait, je pourrais passer toute ma vie dans cette entreprise et à bosser comme un connard à partir du moment où j'ai ma petite amie à côté. » Là, tu fais « What ?» Donc, en fait, il est extrêmement pervers, même si à l'extérieur, les personnages, eux aussi, ont envie de se libérer de l'emprise de l'entreprise. Ton final te fait adhérer à cette fuite libertaire comme je disais, très nouvelle vague, très François Truffaut, qui a été reprise dans tout le cinéma des années 70 américain, des deux mecs qui partent avec les couleurs rouges, et des Miss Bonnie and Clyde, quoi. Enfin, c'est là, tu vois les trucs, tu dis, waouh, génial! Ouais, mais ils vont aller nulle part, mec. Ils vont rentrer gentiment le lundi matin, ils vont se foutre à leur bureau. Ah, je t'aime. Allez, je fais de la merde. Parce que, grosso modo, c'est ça, quoi. Visuellement, enfin, car aussi maîtrisée soit-elle en termes de mise en scène, la série innove moins qu'elle ne digère, avec brio, c'est une évidence, ses multiples références. Des plans iconiques tirés de grands classiques du cinéma à une scénographie surréaliste héritière de Twin Peaks, en passant par des emprunts revendiqués aux vidéos Backroom sur YouTube, ou parfois littéralement au mythique jeu vidéo The Stanley Parable, et ça on en reparlera. Severance régurgite ces codes qui reviennent dans l'air du temps, mais en les distillant intelligemment à travers un rythme à la lenteur bienvenue et une montée en tension parfaitement orchestrée. Et si l'on devait en louer la fabrication de très hautes tenues sans pinailler, alors l'épisode final de la saison 1 se pose en modèle, tant la réalisation et le montage sont au diapason d'un crescendo de révélations totalement jouissif. En termes purement de fabrication, et je pense qu'il y a... Il y a du contre-courant qui est hyper important et qui fait que cette série fonctionne. Alors, on peut dire qu'elle est très bien filmée. Oui, mais ce n'est pas simplement qu'elle est très bien filmée. C'est qu'il y a un vrai parti pris rythmique, scénographique, de composition allégorique des cadres. C'est au-delà même de l'univers. C'est-à-dire la mise en scène est vraiment au diapason de ce que le concept véhicule et raconte. Et c'est d'ailleurs intéressant, c'est que quelque part, ça ne vient presque même pas de Ben Stiller, réalisateur, ou des gens qui ont fabriqué. C'est que le créateur de la série, qui est un mec qui a eu cette idée parce qu'il faisait un taf de merde où il se disait chaque jour qu'est-ce que j'aimerais pouvoir sauter cette journée et passer à la fin. Parce qu'il n'a rien fait d'autre à part, il a fait une petite série, le type, mais il est connu pour Severance, quoi. Et il avait écrit dans son concept déjà tout ça. Il avait expliqué tout cet univers très froid, très clinique, qui n'est pas nouveau, qu'on a déjà vu souvent dans plein de films. Mais c'est marrant, on l'a souvent vu dans des œuvres à velléité philosophique, davantage dans les années 60, dans les années 70, qu'on ne l'a eu depuis la grande victoire du néolibéralisme depuis les années 80. Donc c'était marrant, il y avait ce combat de l'individu, la place de l'individu dans la société, la question du libre-arbitre et de tout ce que tu veux. Et ils reprennent en fait des imageries qu'on avait vu avant, là où quand je te parle de Backroom, alors tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais je ne le savais pas non plus. Mais j'ai des jeunes autour de moi qui en parlant de Severance, qui ont tout de suite vu ça et m'ont dit, mais il faut que tu regardes ça, tu vois. Et en fait, c'est des mecs qui ont commencé à faire des vidéos sur YouTube qui sont devenues vraiment un phénomène, hein, puisque plein de mecs se sont mis à en faire derrière, où c'est des histoires extrêmement flippantes, sans dialogue, sans rien, dans des couloirs, comme ça. Des couloirs blancs, des sous-sols, des trucs d'entreprise. Et quand j'ai regardé les trucs, j'ai fait « Ah ouais, d'accord, non, mais c'est même... la question ne se pose même pas. Ils ont carrément pris ce concept, ils ont pris cette façon de fonctionner pour la mettre dans Severance. » Je voulais parler de The Stanley Parable un petit peu parce qu'il y a des gens qui s'en rappellent très bien, puis des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est ce jeu, qui est un petit jeu indie qui est sorti en genre 2013-2014, dont le concept est de mise en abyme est absolument génial. Et quand tu vois le truc, je t'ai dit, ça peut pas ne pas être une ref pour ces mecs-là. C'est-à-dire, c'est un jeu où tu commences, t'es dans un bureau d'une boîte avec un mec qui, littéralement, on lui dit de taper sur des touches. Il ne sait pas pourquoi il fait ça. Il tape sur des touches et t'as une voix off, omniprésente, en plus un peu... vieil aristo anglais qui dit « Stanley était là sur son bureau à taper et il était finalement content, ne croyez pas qu'il était malheureux de sa vie, il était super content. » Jusqu'au jour où il ne se reçoit plus d'ordre. Et là, tu sais, ok, il ne reçoit plus d'ordre. Il se dit que peut-être il y a une réunion auquel il a oublié d'aller. Peut-être se passe-t-il quelque chose dans son bureau, tu vois. Et le mec, il décide donc d'aller voir. Et il se lève de son bureau pour sortir. Et là, le jeu, il commence. Et pendant tout le jeu, tu as cette voix qui te met en perspective tout ce que tu fais. Et en fait, c'est une mise en abîme du jeu vidéo de manière géniale. C'est-à-dire que tu vas chercher un truc, et puis la porte se ferme, il dit « Ah !» Et il te dit « Tu vas à la salle de conférence. » Tu as le choix d'y aller ou de prendre une porte à droite. Alors toi, tu te dis comme un connard, parce que tu es un joueur de jeux vidéo, donc tu te dis « Moi, je suis un connard, je ne vais pas suivre, je vais prendre la porte à droite. » Mais tu prends la porte à droite, et là, la voix, elle te dit « Et il décida finalement d'aller contre le truc. » Et donc, il te met en perspective tout ce que tu fais. Et ça va très, très loin. Ça va très, très loin dans le jeu. Et c'est absolument brillant. Et donc, il y a ce truc-là aussi qui est une inspiration de Severance. Mais en vérité, Il y a toujours une vérité. C'est moins l'intrigue et la réelle qui captivent que l'écriture des personnages, dont l'évolution et les relations subtiles transcendent les facilités, les incohérences et la fausse complexité narrative. La dualité de chacun d'eux, qui induit des basculements d'identité et d'humanité, est d'autant plus réussie que le salarié robotique du début, au même titre que son environnement de travail, sont introduits de façon ouvertement outrancière, pour ne pas dire caricaturale. Les potards de la déshumanisation clinique sont poussés à fond, mais c'est aussi pour cette raison que l'immixtion progressive du sentiment dans le managérial les rend si attachants. C'est d'autant plus malin que l'hyperbole d'un contexte purement conceptuel, doublé d'une mythologie sectaire qui, elle, pour le coup, plonge dans la caricature, est contrebalancée par la pudeur d'une humanité contrariée qui finit par s'infiltrer délicatement par petites touches sans qu'on la voie venir. La relation entre Turturro et Walken, comme celle qui réunit Adam Scott et Britt Lower, sont à ce titre absolument géniales et font pour beaucoup dans l'envie de suivre leur tentative de libération, aussi prévisible soit-elle. Et comme la série a l'intelligence de privilégier les implications vertigineuses de la dualité des personnages, plus que la nébuleuse conspiration crypto-cabalistique qui en est le prétexte et qui alimente au passage toutes les théories qu'on retrouve sur le net, on finit par être scotché par ce questionnement identitaire au point d'accepter la roublardise du reste sans trop tortiller du cul. Voire même à se satisfaire d'une fin de saison en mode cliffhanger total alors que la série n'était pas encore renouvelée, ce qui laissait poindre l'inquiétude d'un futur foutage de gueule à la J.J. Abrams. Un foutage de gueule, hélas, en partie vérifié sur la saison 2, mais comme ce texte est déjà trop long, on va en parler vite fait à l'oral. Si je parlais de la saison 2, j'en avais pour 3 pages si je rentrais dans les détails. Mais on va parler un petit peu de tout ça dans l'ordre. C'est quoi l'ordre? Ça fait partie de ces petites séries qui débarquent. Alors déjà, c'est vrai qu'il faut reconnaître à Apple d'avoir quand même un niveau de série qui, en ce moment, est quand même supérieur à beaucoup d'autres plateformes. Et de temps en temps, t'as cette espèce de, ce qui n'existe quasi plus, mais de série fédératrice, tu vois, si tout d'un coup, que tout le monde a envie de voir. On va pas parler des acteurs, parce qu'ils sont tous des killers, mais alors, des killers. Ça joue énormément, hein. Quand il y a une scène, là, où tu te retrouves avec, je connais pas le nom de l'acteur, mais tu te retrouves Turturro en train de bouffer face à Christopher Walken, et avec le mec de Christopher Walken qui est... celui qui joue le roi du Gondor dans Le Seigneur des Anneaux, le vieux là, qui est une brutasse cosmique, et que tu vois ces trois vieux là. Et cette scène, elle devrait être instantanément, tu vois, étudiée dans toutes les classes de comédie du monde, quoi, parce que elle est ouf. Moi, j'étais là rien que pour ça, tu vois. Moi, Adam Scott, que j'ai souvent vu dans des comédies, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une subtilité de jeu comme ça, ce mec. Enfin, c'est hallucinant. Et c'est pour vraiment beaucoup dans la série. Tu n'aurais pas ce niveau d'acting. Il y a des choses qui ne passeraient pas. Alors après, bon, voilà, pourquoi la saison 2 Alors, tu peux te raccrocher à tes fantasmes, hein, tu peux te raccrocher aux personnages, ou comme on se disait, on peut kiffer l'iconoclasme sur le non-sensique, sur l'iconoclasme, sur l'absurde, sur le décalage, et dire que parce que c'est ça, c'est cool. Il faut qu'il y ait une trame, quand même, qui se construise. Moi, ce qui me gêne profondément dans la saison 2, c'est que, un, il y a énormément de délayage, et deux, ils perdent complètement leur concept. Avec ce truc qui est incompréhensible de « je commence ma saison 2 en te faisant croire que tout est chamboulé avec d'autres personnages et tout », pour finalement te dire « bah non, en fait, on te fait la suite de l'épisode 2 », t'es là, t'en disant « déjà, un, vous foutez de ma gueule », et puis une fois que tu raccordes sur cette, évidemment, tentative de libération avortée, puisqu'on découvre, à la fin de la saison 1, chacun prend conscience un petit peu de l'autre réalité, tu te dis ça va repartir là-dessus, puis non, dès la fin de la saison 2, on te fait partir, tu vois, des épisodes flashback, des épisodes de délayage sur des personnages secondaires, et puis tous ces trucs de vouloir partir tellement dans le décalé pour le décalé, l'iconoclasme pour l'iconoclasme, le cryptique pour le cryptique, qui te font sortir du truc, c'est-à-dire la scène du séminaire, le truc du séminaire, tu le fais une fois, d'accord, ok, très bien. Mais après, tu me raccordes sur ton concept. Ton concept, c'est quand même deux réalités qui sont allégoriques des deux facettes d'un personnage, et les mecs, tu les vois plus au bureau. Et quand tu les vois au bureau, ils bossent plus. Il n'y a plus du tout le truc sur l'entreprise, le travail. Bon, tout ça, c'est des petits détails à la con. Mais le fait est qu'ils ne tiennent plus leur concept de base. Tu repères tout ça. Donc, ça déréalise tout. Et donc, tu te dis, en fait, vous me racontez quoi? Tu prends l'épisode 2 de la saison 2 et puis tu prends l'épisode 9 et 10. Ben, ça fait l'histoire, en fait. Moi, je suis plus intéressé, très honnêtement, par Adam Scott qui se parle à lui-même en franchissant une porte et qui est en train de se disputer avec son double et qui, là, pour le coup, est une vraie idée déclinée du concept qui est très, très forte, que de me faire partir dans des délires où, au bout d'un moment, à trop faire de délires, moi, j'y crois plus. Donc, j'ai regardé toute cette scène de danse en me disant, bon, OK, tu me fais du Lynch à ta manière. Et au bout d'un moment, bon, Lynch, tout l'univers est comme ça. Donc, il arrive un moment donné où il faut avoir un minimum d'incohérence dans ce que tu fais et ne pas te laisser emporter dans le toujours plus. Ce qui était très fort, c'était justement l'apparent minimalisme scénaristique dans la première saison. Tu avais des petits éléments cryptiques. Tu vois, moi, j'aime beaucoup ce genre de scène où tu sens que la psyché de Tourtoureau, elle est en vrille parce que tu as une espèce de magma noir qui vient autour de son bureau. Tu vois bien que c'est allégorique de quelque chose, et puis c'est connecté à un tableau, et tout ça, tu dis, oui, OK, ça marche. Parce qu'on te donne une réponse, on te donne une explication psychologique à quelque chose. Mais tu peux pas, au bout d'un moment, faire tout et n'importe quoi, sur le seul autel de c'est cool, c'est cryptique, surtout pour donner des réponses comme il les donne, parce que alors, les réponses sur Gemma à la fin, moi, j'étais... Or, t'es là, t'as l'espoir, tu te dis « Ah, alors, je comprends, en fait, qu'est-ce qu'ils font avec leurs chiffres. » Mais en fait, vous mettez des briques d'humeur dans la tête d'une nana que vous voulez tuer juste après, et c'est pour ça qu'il faut aller la libérer. Moi, j'étais là, je dis « Je comprends. Excusez-moi. » Là, et je sais pas si je vais avoir la patience de continuer pour espérer avoir une réponse, je suis convaincu, cryptique sur du cryptique. Bon, ça, c'est le problème du scénar et tout ça. Donc, en fait, elle compile trop la saison 2 de trop plein de tout, et puis surtout d'autosatisfaction. Et c'est ça qui est terrible, en fait. C'est que probablement, vous posiez-vous la question de est-ce que ça allait être pertinent et trouver son public dans une saison 1 qui était extrêmement bien pensée et où tu avais une montée en tension très lente, une mise en scène qui est à contre-courant, enfin en termes de rythmique, que je trouvais intéressant. Comme là, cette façon d'arriver à transformer n'importe quel petit truc à la con, une sonnerie de téléphone, un regard, un bidule, en espèce de cliffhanger où tu as envie de voir. C'était malin, c'était subtil, c'était fait intelligemment. Et tout d'un coup, tu as l'impression que je caricature, mais que c'est Steven Seagal et Schwarzenegger qui ont pris les commandes sur la saison 2 et qui sont dit « Ah, là !» Donc là, on sort la grosse artillerie, quoi, tu vois. Et la grosse artillerie visuelle, la grosse artillerie de cryptique narratif, et voilà, quoi. En fait, il faut remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire ce n'est pas révolutionnaire en termes d'idées cinématographiques, même si c'est très bien exécuté, et ça, tu peux pas le enlever. Et puis surtout, dans la première saison, ça n'est jamais ostentatoire. Et ça... C'est la grande erreur de la deuxième. C'est-à-dire, il y a l'illusion d'un récit allégorique, presque anti-système, ce que je pourrais comprendre. Nous, on n'est pas dupes, parce que Ben Stiller est mort de rire. Apple, mort de rire. Mais bon, peu importe. Mais dont tu vois qu'elle est une hypocrisie dans la saison 2. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans la saison 2, la mise en scène devient complètement centrale. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est « regarde comme je filme bien, regarde mes idées de plan, regarde mes cires », et au détriment, parfois, de ce que l'histoire ou les personnages sont censés véhiculer. Le premier plan de la saison 2, c'est genre « regarde mon plan séquence en motion tracking que je vais te faire et qui va te retourner la tête ». J'ai pas de problème avec un plan comme ça, c'est une super idée, ça donne des trucs qui sont super bien. Genre, le plan, il aurait été de la même manière une minute, c'était nickel. Et là, il le fait durer, mais au bout d'un moment, moi, je oui, bon, c'est bon, allez, ça va, tu tournes dans tous les sens, ta caméra, elle fait ci, elle fait ça, tac, tac, ouais, bon, OK. Tu vois, ça le déréalise, c'est pas l'idée du plan qui est mauvaise, elle est très bonne, l'idée du plan est super. C'est
la performance, ouais.
Bah, c'est la longueur qui en devient, un, une performance, et deux, qui en déréalise, en réalité, l'impact qu'il est censé produire émotionnellement. Même les scènes dans la réalité deviennent... une masterclass de chef opérateur ou je sais pas quoi, moi, ça ne crée même plus une granularité qui a du sens par rapport à ce qui est en train de se produire. Tout devient très beau, tu vois, mais du coup, toute cette dichotomie qui existait entre la boîte et l'extérieur, et toute cette dualité, quelque part, a disparu. Alors ça, c'est un problème que moi j'ai avec la saison 2, mais il y en a d'autres. Hein. Alors, cette émission, on est là pour pinailler, et ça veut pas dire que j'ai pas... Genre, la saison 1, j'ai kiffé la saison 1. Enfin, je vais pas te mentir, je les ai vus, les roublardises. Moi, je l'ai vu, le côté Lost, tout de suite. Mais je me suis dit, oh, ils sont fous, c'est marrant, c'est cool. Les persos, ils sont cool. L'idée de la dissociation, elle est hyper sympa parce qu'elle pose plein de questions. Et surtout, ils jouent vraiment. C'est-à-dire, ils jouent les déclinaisons. Ils ont pensé à tout ce que ça pouvait impliquer psychologiquement. Mais ça ne t'empêche pas de voir les facilités. Le premier épisode, moi, j'étais limite mort de rire. Parce qu'il y a tout ce truc très clinique au départ, hyper intéressant, mystérieux, ok, rythme lent et tout. Et c'est quoi le truc pour t'accrocher? C'est le mec qui est sorti et qui revient à la gueule à moitié en sang dans le café du coin pour te dire il se passe des trucs. Genre, la scène que t'as vue dans 12 milliards de trucs. Tu peux pas faire plus facile pour lancer un cliffhanger, quoi, tu vois, grosso modo. Donc c'est roublard, mais ça marche. Et dans la première saison, ça marche très bien. Malheureusement, ils ont pas... Voilà, la deuxième, c'est tu vois plus la roublardise que ce qui marche. Et donc, ça renverse la vapeur complètement. Severance touche à quelque chose de très contemporain, mais qui est tout simplement une perte d'identité. Donc, au bout d'un moment, tu te poses la question de c'est quoi une perte d'identité ? C'est une perte de point de repère. Et pourquoi une perte de point de repère ? Parce qu'on se raccroche des axes de vérité, sauf que la vérité... Vérité d'un siècle, erreur dans un autre. Les œuvres de fiction aujourd'hui sont des purs produits du système dans lequel on est. Et puis, t'as toute une espèce de roublardise assez cynique des profiteurs du contre-narratif. Et c'est marrant de voir comment la fiction s'empare de ça aujourd'hui. Et il n'y échappe pas du tout, parce que tu prends 3 secondes, j'ai même pas besoin d'avoir à dire grand-chose, hein, mais... des enfants, grosso modo, kidnappés depuis leur plus jeune âge pour être formatés, des gens à qui on met une puce dans la tête pour les soumettre, des élites limite consanguines, fucked up. Enfin, je veux dire, moi, j'ai la totale, là. Il me manque juste le WEF quelque part, ou alors les Rothschild, et c'est bon, on est à fond dans les théories sur le net. C'est assez marrant, je trouve, de voir comment se place la fiction qui est produit du système par rapport à tout ça aujourd'hui. Et d'avoir ces gens-là qui vont récupérer un contre-narratif pour finalement te faire un discours qui se voudrait anticapitaliste ou qui se prétend ou qui apparaîtrait anticapitaliste, voire anti-système, pour qu'au final, tu te dis, bon, ben, ta révolution, comme beaucoup de révolutions d'ailleurs, ne mène qu'à se faire fucker par le système. C'est intéressant, je veux dire, c'est intéressant parce que ça ouvre plein de trucs en filigrane, quoi, tu vois. Et donc, celle-là, elle réunit ce truc-là. Et automatiquement, quand tu vois Severance, quand tu vois The Substance, par exemple, même, qui a des thématiques complètement similaires, il y a vraiment quelque chose qui est purement dans l'air du temps et qui est malin chez les mecs d'avoir réussi à trouver quelque chose. Et quand je dis ça dans l'intro, que ça parle à tout le monde, au-delà de toutes les analyses que tu peux faire, au-delà de la réelle, de l'intrigue, des personnages et tout ce que tu veux, le simple fait de progressivement t'identifier à ce qu'on est tous, hein, c'est-à-dire des pions sur un échiquier qui se croient libres mais qui sont conditionnés et qui voient bien que tout autour d'eux les enferme et qui aimeraient s'en libérer sans savoir comment. Donc tu as une espèce, et je trouve ça assez intéressant en termes allégoriques de la société dans laquelle on est, pour que l'on en arrive à s'identifier à ce point-là à des personnages robotiques. Et si tu veux, dans Severance, ils ont un postulat allégorique qui est super fort, qui est de te dire littéralement, je pose la question de la dualité de l'individu entre ce qu'il est et en fait ce que la société veut qu'il soit. Donc tu vois tout de suite jusqu'où chacun peut y aller dans 1000 interprétations. Mais quand moi je vois que la trame narrative elle est finalement extrêmement classique, je m'attends à ce qu'on me la transforme en un leurre. Ce leurre, il me semble évident à la fin de la saison 2. Mais je ne sais pas encore s'il est évident pour les créateurs ou s'ils l'embrassent par idéologie. Je ne le sais pas encore. On verra ce que ça donne sur la saison 3. Mais s'ils continuent à me faire croire que des cravatés vont trouver leur liberté dans l'entreprise, je vais avoir du mal. Allez, bon, hein, les roublards. Voilà. Mais ça reste quand même une série qu'il faut voir. Hein. Au moins la saison 1. Parce que de toute façon, tu regardes la saison 1, t'as forcément envie de voir la suite. Il faut voir la saison 1. Moi, je pense que ça mérite quand même vraiment. Voilà, bon, ben voilà.
Allez.
Bon, voilà, cette émission est terminée. Vous avez déjà tous vu Severance. Ou alors, vous allez être curieux. Et dans ce cas-là, oui, allez regarder avant de regarder cette émission. Parce qu'on a quand même finalement pas mal spoilé. Bon, ben on se dit à la prochaine. On voulait faire, honnêtement, on va le dire, On a hésité beaucoup à faire RRR. Moi, j'ai hésité beaucoup parce que c'est quand même le film indien qui m'a donné envie d'en revoir 50 derrière. Mais, et qui débarque enfin sur Netflix en France, alors que beaucoup de gens l'ont déjà vu. Mais on l'a pas fait parce que j'avais pas non seulement envie de venir après la bataille et que je pense que déjà beaucoup de choses ont été dites sur le film en lui-même et que le seul intérêt que j'aurais pu voir et que j'ai pas trop lu par rapport à ça, c'est un petit peu tout l'impact qu'a pu avoir ce film à la fois sur la production cinématographique en Inde et puis sur son ouverture au monde. Bon, qui après n'est pas une analyse de film, donc c'est peut-être pas la place de cette émission. Donc voilà pourquoi on n'en a pas parlé, parce que voilà, ça arrive un peu tard, je trouve. Et que voilà, et que tout le monde a déjà plein de théories sur RRR. Mais en attendant, s'il y a déjà des personnes qui nous regardent, qui n'ont jamais entendu parler de RRR, ce dont je doute profondément, courez le voir, parce que c'est peut-être le film de... Ah, je sais pas, un des films qui file le plus la banane et de plaisir et même de mise en scène et d'acteurs et d'histoires que j'ai vu depuis bien longtemps. Donc c'est un film absolument à voir. Sur ce, à la semaine prochaine. Je sais pas quand. À quand Alain décide, hein, parce que c'est lui le maître de cérémonie là. C'est lui le Higan. Hein. Regarde, sourire maléfique. Bon, allez, à la prochaine.